il y a d'abord un niveau de quantité de possibilités qu'ont les gens de parler anglais. C'est clair qu'entre les États-Unis et le reste du monde, on a plus de chances, avec des probabilités strictes mathématiques, de trouver aussi des gens qui parlent de ce domaine-là, comme aujourd'hui, on traduit à tour de bras les romanciers américains plus que les romanciers croates, ou par définition d'un point de vue tout simplement numérique. La deuxième chose, c'est que les nations qui ont le pouvoir économique sont aussi celles qui font le plus de dégâts. Donc, et en même temps que ce sont elles qui font le plus de dégâts, ce sont elles qui, en même temps, prennent le plus vite conscience des dégâts qui sont faits. Donc, par voie de conséquence, on est devant un développement réciproquement équivalent, grosso modo, entre la destruction et la tentative d'aide ou de reconstruction. Et la troisième chose, c'est qu'il y a, on peut se rendre compte sur le terrain, quand on voyage, Bertrand et moi, à l'étranger, on s'aperçoit que des pays latins ou les pays européens ont beaucoup plus un rapport à la nature utilitaire et de chasse. Alors que dans les pays anglo-saxons, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est vrai qu'en Floride de l'Ouest, c'est vrai qu'en Iowa et en Utah, vous allez trouver beaucoup plus de carabines que de jumelles. Il n'empêche malgré tout que les anglo-saxons, en tout cas les Anglais en particulier, ont vraiment beaucoup développé ce rapport à la nature qui est un rapport d'amour, ou d'amour, le mot est beaucoup trop fort, mais disons un rapport d'observation, un peu plus qu'un rapport de prédation. Et ce qui fait qu'aux États-Unis, on a un peu des deux, mais on a beaucoup aussi, on a un grand rapport, donc ça, pour le dire en deux mots, pour la simple observation de la nature, quand vous vous trimballez en Afrique, vous avez plus de chances de voir des anglo-saxons que de voir des Français, des Allemands. Les Allemands, non, ça c'est encore un autre problème. Et voilà, la deuxième chose, c'est qu'en France, la grosse difficulté, c'est que les choses sont extrêmement... Est-ce que c'est issu de Descartes, où on ne saura jamais, mais il n'y a pas de distance. Et puis surtout, ce qui est fabuleux dans cette période de découverte où justement cette notion de transdisciplinarité existait, c'est-à-dire que à quel titre le jeune Huxley s'embarque sur le rattlesnake, à quel titre le jeune Darwin s'embarque sur le beagle, à quel titre le jeune Humboldt s'embarque pour ses circonvolutions autour de la planète. Darwin, il va accompagner un amiral, il est encore étudiant. Huxley, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que Huxley, lui déjà, il voulait absolument faire une découverte sur le terrain, si j'ose dire, terrain qui est mouvant puisque c'est la mer. C'est un spécialiste des méduses, et donc il a profité de ce voyage en Australie du rattlesnake pour effectivement, en tant que pur scientifique, étudier les méduses, les cnidaires, enfin tous ces animaux multicellulaires, et les dessiner, etc. Et donc ce dont ne se ressent pas beaucoup son voyage, qui m'a, je l'avoue personnellement, un peu déçu, parce que j'imaginais trouver à la fois de la science et à la fois et du coup la plupart des gens amateurs de strictes relations de voyage ont été fascinés, puisque je crois même que c'est Melville ou Le Clésio, enfin un des deux, dit que c'est un des voyages maritimes les plus intéressants. Oui, oui, oui. J'ai plus en tête, je retrouverai facilement.
Oui, même les étapes sont décrites alors qu'elles n'ont
voilà. Et puis il y a des descriptions absolument extraordinaires. Je sais pas si vous vous rappelez il est tellement malheureux sur ce bateau la nuit qu'il va recenser par le menu chaque bruit. Il commence par la souris, ensuite il recense comme ça une espèce de gradation des nuisances sonores, bref. Et du coup, ce voyage-là m'avait un peu laissé sur ma faim pour le côté, je voulais absolument voir des méduses là-dedans. Et Bertrand, justement, c'est amusant parce que on en reviendra après pour la traduction. Bertrand a traduit pour cette traduction, et donc je lui ai demandé si ça l'embêtait pas trop de traduire quelque chose d'extrêmement scientifique, parce que André Fayot, le grand traducteur qui a fait le travail pour ce texte-là, avait décliné. Il a dit non, je veux absolument pas. Et j'ai réussi à retrouver sur Internet une histoire de la relation stricte de Huxley parlant exclusivement des méduses. Donc le pauvre Bertrand Fiodo a dû se taper des noms absolument incroyables pour alors évidemment, comme c'est des textes de d'époque, on n'a pas eu de retour ébouriffé de scientifiques qui se disent les traductions étaient mauvaises en français, parce qu'en plus les noms changent au fil du temps, etc.